Donc sur le terrain, lui aussi, il est enseignant à l'université et il est sociologue. Vous comprenez qu'il est bon de jeter un regard sur la société, parce que la femme, tout ce dont on parle, mal de la société, de sa vie en société. Donc, il va nous entretenir aussi un peu. Et avant de passer la parole, parce que c'est davantage des questions, vos questions qui nous intéressent. Donc, docteur Clément, vous avez la parole. Je vous remercie.
Merci, monsieur le coordonnateur, pour cette séance. Je tiens dans mon propos introductif à remercier madame la présidente de l'FDHC qui mène un grand combat justement pour que l'être humain en général puisse redorer son blason avec son bien-être et faire éliminer le mal-être dans la société. La séquence d'aujourd'hui avec la Journée internationale de la femme africaine vient mettre justement la question du bien-être de la femme aujourd'hui. Et vous avez suivi les différentes panélistes qui ont pris la parole aujourd'hui. Ce sont des femmes qui s'assument et qui vous montrent quelle est la voie à suivre pour justement avoir cette place que vous devez avoir dans la société. Alors, si peut-être que c'est un homme qui prend maintenant la parole après les femmes, je reviens sur l'image que le docteur Mbono a affichée au début de son propos. S'il affiche de la conférence a mis les hommes à côté, c'est parce que il est vrai, la femme doit se prendre en main, mais nous devons les accompagner. Alors, si le combat peut être fait, vous avez écouté le témoignage ici sur madame Claire, son concert, elle était accompagnée par NDHC. Et le combat et l'accompagnement se fait avec tout le monde. C'est tout le monde qui doit s'impliquer dans tout ce que la femme dit et dans tout ce que la femme africaine dit. Et que vit la femme africaine? Qu'est-ce qu'elle vit pour qu'on puisse la qualifier de survivante? Comment est-ce qu'elle devient survivante? Et si elle est survivante aujourd'hui, comment est-ce qu'elle s'est réparée pour être survivante? Ça, c'est les questions qui vont jalonner mon propos aujourd'hui. La femme africaine, c'est d'abord deux choses. Je rebondis sur les derniers propos, je ne vais pas revenir sur un argumentaire. L'acceptation de soi et l'estime de soi. Vous avez écouté le femme. Aujourd'hui, la plupart des mots que nous rencontrons dans notre société avec les jeunes générations aujourd'hui, les jeunes ne s'acceptent pas. Les jeunes ont une très faible estime de eux. Lorsqu'on regarde un peu nos usages, notre manière de s'alimenter, notre manière de se présenter en société. On fait toujours tout pour plaire aux autres. Est-ce que ce qu'on fait, c'est pour nous plaire à nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on a toujours tendance à vouloir plaire aux autres? Est-ce que lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous vous acceptez tel que vous êtes? Non, j'ai trop de poids, j'ai trop de bouton sur le visage, j'ai trop ceci, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez. Et à chaque fois, on veut se modifier. C'est ça le premier combat, l'acceptation de soi-même. Est-ce que vous acceptez tel que vous êtes? Ça, c'est le premier challenge. Avant que la société ne vous accepte, quelle est l'image que vous avez vous-même? Et maintenant, dans cette image, la société maintenant va vous façonner. Et la première instance de socialisation, c'est votre famille. Les enfants vont vous demander depuis la naissance de votre famille, comment est-ce qu'elle vit? Ces différents traumatismes qu'elle peut avoir, ces réfugiés qu'elle peut avoir dans notre société. L'éducation que nous donnons à la jeune fille, c'est une éducation différenciée. Une éducation où on forme la femme à être manager et non à être producteur. La femme est manager de la famille, elle est manager de tous les biens que produise l'homme. On doit l'apprendre à gérer, on doit l'apprendre à gérer le foyer, on doit l'apprendre à savoir comment utiliser tout ce qui se trouve dans la maison. Elle est formée en tant que manager. On ne la forme pas en tant que productrice elle-même du bien. Et c'est pourquoi dans différentes sociétés, on va se retrouver quelle sera la conséquence que les femmes vont vivre dans cette foyer. On épouse une femme, on la fait de productrice dans la maison parce qu'elle ne produit pas. Justement, la vie devient difficile. Parce qu'aujourd'hui, les femmes vont également produire. Mais dans l'éducation qu'on donne à la femme, est-ce qu'on l'éduque? Conséquence, elle arrive, elle manager. Et ça, c'est une conséquence qui va se retrouver dans tous les aspects de la société, même dans les sphères du milieu du travail. La femme va se contenter du social. Elle va se contenter de gérer ce qu'elle a acheté. Elle n'a pas de nourrir par les ambitions. Je veux aussi être boss. Je veux aussi être boss. On vous a pris l'exemple sur le plan politique. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de femmes représentées dans les instances de prise de décision? Parce que les femmes elles-mêmes ne se sentent pas capables de relever ce challenge. Elles sont minoritaires, celles qui tendent à vouloir relever ce challenge. Et il faudrait maintenant, dans le système de rémunération, que les femmes elles-mêmes prennent conscience de leur potentiel. Je peux m'éduquer, je peux me former, je peux développer tel type de compétences pour avoir quel profil de ma forme. Maintenant, le challenge va être à un autre niveau, pas au niveau de la compétence, mais au niveau de est-ce que à compétence égale, j'ai les mêmes chances de disposer du poste d'un homme. Et là, maintenant, c'est ça le challenge de la société. Qu'est-ce que la société fait pour justement donner à compétence la place que la femme peut avoir à la société? Ce sont les différentes formes de discrimination qu'on a dans la société et les institutions, tant bien que mal, essaient de réguler justement avec les politiques de plus de temps. Mais maintenant, dans nos mentalités, dans notre éducation, même dans le plan professionnel, est-ce qu'on accepte la même chose? Est-ce qu'on accepte d'être sous l'autorité d'une femme? Ça, c'est ce que les femmes vivent dans les sociétés, dans les entreprises. Comment est-ce qu'elles réussissent à relever ce challenge? Si on prend maintenant d'autres aspects de la vie, ça c'est peut-être plus la vie professionnelle. Les traumatismes que les femmes vivent au quotidien. Une femme qui se fait violer, une femme qui se fait battre par son conjoint, une femme qui vit un ensemble de traumatismes. Comment elle réussit à se réparer avec cette thématique? Parce que c'est ça la question. Il y a un ensemble par les violences basées sur le temps, un ensemble de thématiques que les enfants. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui se font violer, même dans l'environnement familial. Comment est-ce qu'elles parviennent à s'exprimer? Est-ce qu'elles arrivent souvent à s'exprimer? Est-ce qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer pour dire ce qu'elles ressentent ou dire ce qu'elles pensent? Est-ce qu'une fois qu'elles s'expriment, on les accompagne? Si vous êtes fait agresser, quel est le processus à suivre pour avoir une forme de réparation? Si on vous accompagne à savoir comment est-ce que vous faites plainte, vous avez un parce que vous faites plainte. Est-ce que vous savez que vous avez un droit? Est-ce que vous savez que vous pouvez défendre le droit? Si vous ne le savez pas, il faudrait que vous, dans l'entourage, vous puissiez aider la femme à connaître même d'abord quels sont ses droits. Et comment elle peut faire utiliser justement ces droits pour justement avoir cette forme de justice réparatrice dont elle a besoin dans notre société. Donc, notre entourage est un levier pour nous, pour nous accompagner, pour accompagner la femme dans la première dimension, telle qu'elle a fait. Je reconnais ce que je dis. Ça, c'est la première dimension de la réparation. Première dimension de la réparation, c'est de reconnaître ce qu'on vit, de reconnaître quel est le traumatisme par lequel on passe, de reconnaître que nous avons un problème et de se dire, par rapport à ce problème que j'ai, comment est-ce que je fais face à cette situation pour pouvoir me développer? Et c'est à ce niveau-là que vous devenez survivant. Parce que la survivance, maintenant, c'est lorsque vous avez réussi à passer d'un cap A à un cap B. Si vous vivez dans une situation de précarité, et que vous réussissez à quitter de cette situation de précarité pour avoir une situation un peu plus stable, un peu plus améliorée de votre condition de vie. Alors vous êtes suivant. Une mère célibataire qui réussit à vivre son enfant seul et qui n'a pas besoin de l'apport des autres, une fois que cet enfant a réussi, elle est suivante. Elle est suivante parce qu'elle a préparé ce challenge. Vous avez écouté Madame Lévin tout à l'heure avec toutes les questions. Et ça, c'est aussi dans l'autre dimension de la réparation, avoir des modèles. Quels sont les modèles que vous avez pu suivre par rapport à ce que vous avez vu? Il faudrait que la société vous présente des modèles. Et c'est justement ça la responsabilité sociétale où nous devons proposer des modèles à suivre, des modèles de résilience. J'ai vécu telle situation, alors il faut identifier à quelle figure pour justement dire si telle figure a pu traverser cette situation, à avant moi, également, je peux traverser cette situation. L'exemple de la dame pour le blanc, c'est l'exemple de madame à travers la situation. Ce sont des modèles qu'on vous présente. Et ici, dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'identifier, qui peuvent identifier leurs frères, leurs sœurs, qui ont vécu cette situation. Et vous devenez des modèles de support à tous ceux qui traversent ce type de situation. Et qui, à partir de votre apport, de votre soutien, parviennent à devenir cette suivante. Qu'est-ce que nous pouvons retenir à travers? Les dames ont déjà été assez exhaustives sur ce qui a été fait et sur ce qui peut être dit sur le plan social. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus longtemps. Pour toutes sortes de conclusions, je vais dire l'accompagnement social des victimes de violences est une pierre angulaire de la justice sociale et du développement durable. Il ne s'agit pas de réparer une fragilité, mais de l'accompagner dans sa propre capacité à se reconstruire et à faire valoir ses droits et à retrouver une place active et valorisante dans la société. En investissant dans cet accompagnement, nous investissons dans le capital humain, la résilience communautaire et un avenir où chaque femme peut vivre libre, en sécurité et en pleine dignité. En cette journée internationale de la femme africaine, nous devons collectivement œuvrer pour renforcer cette dynamique sociale de réparation. Et cela passe par l'investissement dans des programmes holistiques et multisectoriels qui intègrent les dimensions médicales, psychologiques, économiques, sociales et juridiques. La sensibilisation et l'éducation des communautés pour déconstruire les stéréotypes de genre. Renforcer et lutter contre la stigmatisation et promouvoir la responsabilité collective. Pour renforcer les capacités des acteurs locaux, des organisations internationales, un peu comme MDHC, qui mènent déjà ce combat-là, justement, pour que le bien-être de la femme soit un bien-être holistique. Il faut également l'assurance de la pleine participation des survivantes dans la conception et la mise en œuvre des programmes de réparation. Parce que la réparation, c'est pour elle et elle ne peut pas se faire sans elle. Donc, toutes les initiatives qui doivent être prises pour le processus de réparation de la femme, c'est avec la femme elle-même la suivante. Et la poursuite de la lutte contre l'impunité et l'accès à une justice effective. Parce que si justice n'est pas rendue à une femme qui a